Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario! Ouais,
je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael.
Salut, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende pour ce 57e épisode. Cette semaine, on reçoit le directeur du Moselle Open, un joueur qui m'a régalé pendant mes jeunes années avec ses tenues fila blanches à bandes rouges et son geste au service si particulier, Julien Bouter. Notre invité voulait faire trois métiers, mais pas celui de joueur de tennis pro. Improbable parcours donc pour un homme qui a fini par battre un numéro 1 mondial dans son sport, il s'agit de Gustavo Kuerten à sa belle époque. C'est un coach de boxe assez connu qui l'a aidé à se professionnaliser. Lui qui était seulement 15 à 17 ans, et vous allez découvrir comment. Julien nous raconte ses débuts improbables sur le circuit satellite, sans argent, en mode campeur. Puis son premier Roland-Garros contre un certain Cédric Pioline en étant classé 350e mondial. Un régal. Il revient pour nous sur la manière dont il a progressé pour péter plusieurs paliers. Top 200, top 150, top 100 et top 50. Vous allez découvrir qui sont les entraîneurs ainsi que les partenaires de double derrière ces progrès. Julien nous fait vivre sa semaine à Milan, où il a rencontré un certain Roger Federer qui allait s'envoyer son tout premier titre historique. Il nous raconte ses rencontres contre des joueurs mythiques, Guga Kuerten donc, mais aussi Goran Ivanisevic, Leighton Hewitt, Pete Sampras, André Agassi ou Dominique Herbati. Excusez le micro qui frotte sur mon pull et les jambes, même moi je me suis auto-soulé au montage. Désolé, erreur de débutant, ça arrive. Une nouvelle fois, c'est un épisode en deux parties que je vous propose aujourd'hui. On parlera du Moselle Open plus en détail la semaine prochaine. Et donc de l'après-carrière de Julien. J'essaierai quand même de vous concocter un hors-série dédié à l'édition 2021 du Moselle Open qu'on diffusera jeudi ou vendredi. Pour rappel, on a lancé notre première classe la semaine dernière avec le coach d'anthologie Sam Sumik. Merci pour vos commentaires hyper sympas suite aux deux épisodes avec le technicien et surfeur breton. Vous avez une offre spéciale toujours en cours pour les 30 premiers inscrits. Il reste quelques places. Les détails sont dans le premier lien juste en dessous en description. Place au 57e épisode avec Julien Bouter. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Julien Marc Bouter, enfin Jules ou Boots, ça dépend. T'es né le 5 avril 1974 à Boulay-Moselle, à mi-chemin entre Metz et la frontière allemande. Tu mesures 1,91. T'as commencé le tennis à 10 ans.
Et t'as 1,93. Aussi
fait... 1,93. Ben alors, l'ATP là, qu'est-ce qu'il fout ? T'as commencé le tennis à 10 ans, t'as aussi fait du hand en compète, de l'escrime, du judo et du ski, un vrai touche-à-tout. T'as obtenu un diplôme en mécanique avant de te lancer sur le circuit en 96 à 22 ans. Fait assez rare pour être précisé, t'étais 15 à 17 ans. Tu nous raconteras la suite. Droitier, revers à une main, ton coup fort est le service. T'as été joueur de tennis pro de 96 à 2004. Même si t'as pas joué très longtemps et que j'étais très jeune, tu m'as fait kiffer, Julien, et je suis vraiment très content de t'avoir sur le podcast. 46e joueur mondial à ton meilleur en 2002 et 26e en double. Tu as remporté le tournoi de Casablanca en 2003 sur terre, en simple contre Younes El Aynaoui en finale, et 4 autres titres en double, Chennai avec Christophe Rocus qui est passé aussi sur ce podcast, et Toulouse avec Fabrice Santoro en 2000, Marseille en 2001 toujours avec Fabrice, et Tashkent en Ouzbékistan avec le Slovaque Dominique Herbati, ex-12e joueur mondial. Tu as fait 20 fois tableau en Grand Chelem, joué 16 Master 1000 avec deux quarts à Hambourg et Monte-Carlo. 2 ans après t'être lancé sur le circuit, tu as affronté Pioline au deuxième tour de Roland. Tu as joué des gars comme Agassi ou Kafelnikov à Roland, Philippe Houssis ou Ferrero à Wim, et Hewitt, Sampras et Kuerten à l'US. Tu as d'ailleurs battu 2 fois Guga à Bâle en 2001 alors qu'il était numéro 1 mondial, ainsi qu'au premier tour de l'Open Australie 2002, il était numéro 2. Match au cours duquel tu avais réalisé le record du nombre d'aces à l'époque, en servant 37 plombs en 5-7. Bon, ton record a légèrement été dépassé par John Isner dans leur match épique avec Nico Mahut. Tu sais combien il en a fait pleuvoir ?
Bah attends, si je fais une petite règle de 3 rapide, on va dire que ça fait, vu le score, c'est considéré comme allez, on va dire une quinzaine de sets. Il sert 6 fois, il en met une moyenne de 2, 12, 15, je sais pas, 170, non?
Alors, le calcul, la logique est bonne, mais bon, t'es sur Metz, mais un peu marseillais sur les bords, il en a servi 113, c'est déjà pas mal.
Et Karlovic... je le voyais meilleur serveur que ça, tu vois.
Et Karlovic avait aussi battu le record avec 78 aces contre Stepanek en Coupe Davis à la belle époque du format de la Coupe Davis. En 2001, tu fais finale contre un certain Roger Federer à Milan qui remportait son tout premier titre 6-4 au troisième. Pour info, il en a à ce jour gagné 102 autres depuis. Tu as battu du beau monde avec des victoires sur des mecs comme Marat Safin, Michael Chang, Federer, Todd Martin, Tim Henman deux fois, quand il était numéro 9 et numéro 10. Kuzetsky, Koreja, Costa, Philippe Houssis, Davidenko et Roddick. C'est en double que tu as le plus performé en faisant demi en 2002 à l'Open d'Australie avec Clément. Vous aviez d'ailleurs perdu contre la paire Santoro-Liodra. Tu as fait huitième à Roland avec Fabrice et huitième à Wim avec le Batave Sieng Schalken. 11e à son meilleur. Tu vis à Arlon en Belgique, c'est bien ça?
Je vivais à Arlon.
Aujourd'hui, tu es retourné à Metz, non? C'est pas ça?
Ah oui, oui, oui.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu es directeur du tournoi de l'Open de Moselle, ATP 250. Voilà, ATP 250 à Metz, devenu le Moselle Open en 2011. Tu es également consultant pour les chaînes du groupe Canal. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Non.
Non. Bon, voilà. Tu as un fils, Oscar, né en septembre 2009. Tu aimes travailler le bois et restaurer de vieilles bagnoles. Tu dis sur ta fiche ATP que ton papa est la personne que tu admires le plus. Est-ce qu'on doit ajouter d'autres choses, Julien? Peut-être commencer par ces deux fameuses anecdotes dont tu veux nous parler.
Ouais, il y en a trois en fait.
Ah,
sur, bon, bah, en plus, sur des faits que tu as mentionnés, c'est la demi en double avec Clément, ouais, contre Lotra Santoro. C'est la fameuse demi où on mène, je crois, un set, un break. Et il y a l'épisode de l'oiseau. Je ne sais pas si tu l'as vu ou… Non, tu n'as jamais vu.
Non, ça ne me dit rien.
Attends, même ceux qui ne connaissent rien au tennis, ils l'ont vu. C'est Clément qui sert.
Ouais.
On est à 3 de break, je crois, il me semble, dans le deuxième. Il sert sur l'Audra. L'Audra fait un retour et tu sais, on joue en night session. Et à l'époque, après beaucoup moins maintenant, puisque je l'ai moins vu, les papillons allaient se griller les ailes sur les projecteurs.
Ouais.
Avec la nuit, attirés par la lumière, et ils tombaient sur le court. Mais donc, quand il tombait sur le court, il y a les hirondelles qui passaient pour choper les papillons qui étaient en train de bouger sur le terrain. Et au moment où une hirondelle descend, l'Audra retourne et il chope une hirondelle.
Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, si, c'est bon, ça me revient.
Et voilà. Et après, on fait les cons suite à ça. Et puis, on sort complètement du match et puis on se fait fourrer. Donc, voilà une anecdote. Contre Sieng Schalken, j'ai beaucoup joué en double avec lui.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est que sa meilleure saison, ben quand il est 11 justement, je le joue, je crois, en 8e, au deuxième tour ou en 8e à Monte-Carlo.
D'accord.
On est pas, et s'il me bat, il rentre dans les 10.
Ah ouais.
Donc, et rentrer dans les 10, c'est quand même une étape de dingue. Et puis, on se fait un match et je le bats. Et donc, il n'est jamais rentré dans les 10 alors qu'on était partenaire de double.
Sympa le partenaire.
Voilà, ouais.
Un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like dès maintenant si t'es sur YouTube, ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. C'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre. Si tu veux un échantillon de cours gratuit qu'on a déjà enregistré, tu peux récupérer les 4 secrets de statisticien enregistrés avec Fabrice Barrault, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. Félicitations d'ailleurs Fab pour ce premier grand chelem remporté en équipe à l'US Open. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu, tu vas vite le cerner. C'est un outil puissant pour comprendre qui tu es sur un court de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 top joueurs et joueuses du top 100. Pour arrêter de trembler sur balle de break, c'est juste en dessous, c'est les 2e et 3e liens en description.
Et puis l'autre, c'est avec Federer à Milan.
Ouais.
Au début du 3e. Et tu regarderas parce que je pense sur les vidéos. Donc, c'est moi qui commence à servir au tie-break du 2e.
Yes.
Et Lars Graf, il me refait servir au début du 3e. Et tout le jeu, je me dis, mais putain, c'est pas à moi de servir. Et bref, et je sors un peu du truc, je me fais breaker et j'arrive jamais à récupérer le break de retard.
Enfoiré de Lars, viens, on le retrouve, on lui fait sa peau.
Et en plus, je le retrouve puisque ça fait là 3 ans que c'est le superviseur au Moselle Open.
Ah d'accord, donc il n'est pas totalement retraité, il a juste pris sa retraite d'arbitre.
Voilà, il est passé superviseur.
D'accord. Il parle français, Lars ?
Non.
Ah, dommage, j'aurais bien aimé l'avoir sur le podcast. Ok.
Donc, pour 3 petites anecdotes sur des faits que t'as mentionnés.
Ah ben c'est sympa, ça commence fort. On reviendra à cette période-là. Pour commencer déjà, tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis, comment tu es venu à ce sport ?
Ben, je suis venu à ce sport parce que, tu l'as dit, je suis né à Boulay et mon grand-père a fait partie des quelques-uns qui ont été fondateurs du tennis club de Boulay il y a 70 ou 80 ans. Et puis voilà, et du coup, ben, mon papa, il a joué au tennis et automatiquement, ben, de fil en aiguille, je me suis mis à ce sport-là, même si ce n'est pas le premier sport que j'ai commencé.
Ok.
Donc voilà, mais pour une raison très simple, donc c'était dans les années 80-84, c'était vraiment l'expansion du tennis où ben justement j'étais à Marly, donc quand on a déménagé de Boulay à Marly, et il y a eu l'ouverture du club et automatiquement il y avait un nombre restreint de licenciés, et comme c'est une ville très dynamique, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Et ils ont interdit au moins de 12 ans ou moins de 14 ans de pouvoir s'inscrire parce qu'il fallait laisser la priorité aux adultes. Et donc, d'accord, c'est pour ça que dès 8 ou 9 ans, moi, je n'ai pas pu m'inscrire au tennis club de Marly. Ça a été une grande souffrance, entre guillemets, puisque moi, je voulais jouer au tennis, mais on ne pouvait pas. Donc, je faisais juste des petits stages où j'accompagnais mon père comme ça. Donc, voilà. Mais le premier sport que j'ai pratiqué après en club, c'était le ski et le judo. Ouais.
Ok. À quel moment, du coup, tu as pu jouer au tennis en full time, tout le temps ?
À 10 ans, parce que je pense que voilà, il fallait avoir 10 ans après, et puis le club s'est structuré au bout d'un certain temps, et donc il y a eu plus de cours, et j'ai pu m'inscrire au tennis club.
Mais tu étais 15 ans à 17 ans, c'est-à-dire que de 8-10 ans, quand tu as commencé de jouer, tu as fait quoi jusqu'à 17 ans ? Tu n'as pas forcément fait de compète ?
Si, mais après donc jouer correctement, bah après j'ai toujours aimé la compétition, hein, et donc j'aimais bien le tennis, mais je jouais vraiment comme ça. J'ai été classé 30 relativement tôt, à l'âge de, ça devait être 12 ans ou 13 ans.
Ouais.
Mais je suis resté 3 ans 30, je crois.
Qu'est-ce qui s'est passé?
T'as stagné. Là, c'est que les compétitions, c'était les étés. Essentiellement, ouais. Hein, les gamins à cet âge-là, c'est beaucoup, beaucoup de matchs pendant les vacances et notamment l'été. Et comme nous, avec les cousins, on était sept cousins et les mamans sont originaires du centre de la France. Et on avait une grande maison de campagne là-bas. Et donc, les 2 mois d'été, et ben moi, je préférais aller les passer là-bas, être dans la campagne avec les cousins plutôt que faire de la compétition. Donc, je faisais quasiment uniquement les matchs par équipe et quelques matchs par an. Donc, voilà, je suis resté 3 ans 30. Et puis après, dès 15 ans, j'ai fait 30, 15, 3, 15, 1. Et puis,
et après ça, parce que j'ai une question qui est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro ? Est-ce que tu as continué ta progression après 15 ans ou tu as stagné parce que tu faisais tes études ?
Parce qu'après, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est l'âge où c'est l'âge où on commence à se balader un petit peu avec les copains ou autres. Et donc, pendant les vacances, je les partageais moitié dans la maison de famille. Et puis, la moitié du temps, on partait faire des petites tournées, mais autour de vraiment dans la région, quoi. On allait jouer en Alsace, à Dijon.
Avec la ligne ?
Non, avec 2-3 copains. On faisait des tournées comme ça. Okay. On faisait aussi une tournée en Normandie où on faisait Jullouville, Houlgat, Honfleur. Enfin, c'était toute une tournée, 3-4 tournois. Donc, on partait 15 jours là-bas. Et puis sinon, après, on faisait des tournois. Il y en avait beaucoup en Alsace. Et puis, tous les tournois aussi en Moselle, Lorraine. Et puis, on allait un petit peu à Lyon, à Dijon. Et de temps en temps, on allait s'aventurer à Paris, mais pas beaucoup quand même, parce que c'était loin.
Il y avait trop de distractions à Paris.
Oui, certainement. Mais en plus, c'était. Si, on a fait quelques tournois comme Country Club, comme la CBB, je me rappelle certains tournois comme ça. Mais ça, c'était un peu plus tard quand tu es déjà peut-être négatif. Donc, oui, pour ma progression, donc, j'ai fait non classé 30.
Oui.
À l'âge, donc à 12 ans ou 13 ans. Après, je suis resté 3 ans 30. Après, j'ai fait 30, 15, 3, 15, 1, 3, 6, 2, 6, moins 2, moins 30 et promotion après.
Et quand tu étais à ton meilleur 46e, tu étais combien français?
J'étais 5e français.
Et entre 2-6 et 3-6 et 3-6 et 2-6 et 2-6 et moins 2, enfin, il se passe quoi? Tu as des.
Ce qu'il y a, c'est que je fais déjà 15-1, 3-6. Hein.
Ouais, déjà, donc, c'est
le,
propre.
Le 15-1, 3-6. Mais ce qu'il y a, c'est que je me rappelle l'année-là, j'avais battu aucun 3-6. Aucun mec au-dessus. Mais par contre, j'avais dû battre peut-être une douzaine ou une quinzaine de 4-6 dans la saison. D'accord. Et donc, normalement, j'aurais dû être 4-6. Voilà, okay. mais j'avais une feuille où j'avais énormément de victoires et j'avais très peu de défaites en fait en dessous de 4-6 et donc j'étais passé 3-6.
Et ton diplôme en mécanique, c'était pour toi, pour faire plaisir à tes parents, c'était quoi l'idée?
Non, ça a toujours été en fait, j'ai eu un cursus scolaire normal parce que moi je voulais être il y a trois choses que je voulais faire, je voulais être enseignant, alors soit dans le tennis ou soit en maths ou dans les matières matière scientifique ou technique, ouais. et je voulais travailler aussi dans la conception et le bureau d'études.
D'accord.
Donc, c'est un peu les trois choses que je voulais faire.
Et joueur de tennis professionnel, tu voulais le faire ou pas?
Non, mais je te dirai comment ça s'est passé d'un point de vue chronologique. Après, c'est un concours de circonstances. Et donc, voilà, après, je passe un bac E, c'est en fait le bac scientifique maintenant, mais avec des options techniques en plus.
D'accord.
Donc, ça doit même plus exister. Donc, c'était déjà en plus une période où, dès la seconde, j'avais entre 42 et 45 heures de cours par semaine, puisqu'on avait le cursus normal plus au moins 10 heures, entre 8 heures et 10 heures de matière scientifique en plus. Okay. Donc ça a été en seconde, première, terminale. Et puis, à ce moment-là, très souvent sur l'orientation, y a deux choix qui s'opèrent. C'est que soit tu continues, soit sur un diplôme, ou alors tu t'intègres une prépa pour aller dans une école d'ingénieur après. Moi, j'avais deux expériences de cousins qui sont passés par des prépas et qui avaient des activités en dehors et qui ont dû pendant 2 ans quasiment tout arrêter parce que la somme de travail. Un d'entre eux, il m'a dit, mais par contre, si à un moment tu as des bons dossiers sur des IUT ou autres, il y a toujours des possibilités, des passerelles de réintégrer sur des troisième années d'ingénieur et autres. Et donc, je me suis dit, je vais passer à un DUT, comme ça je vais pouvoir continuer aussi de jouer au tennis parce que ça restait ma passion. Parce que ouais. Les autres sports, je les ai arrêtés à partir de 14-15 ans au fur et à mesure.
Yes.
Et donc voilà, j'ai passé mon IUT. Et puis après mon IUT, j'avais aussi la possibilité soit d'intégrer une école ou soit de continuer sur une licence. Donc j'ai continué parce que je me suis dit, si je fais une bonne licence, je pourrais intégrer en quatrième année. Donc j'ai fait une licence. Et au moment de la licence, à notre période, on avait l'armée qui était obligatoire.
Ouais.
Et à ce moment-là, quand on voulait dépasser les 3 ans de dérogation, donc après la majorité, c'est-à-dire pousser pour 5 ans d'études, il fallait faire une préparation militaire. Donc, c'était une préparation militaire où on allait, je crois que c'était une semaine ou 15 jours, faire un stage pour pouvoir décaler et donc avoir 2 ans supplémentaires et pouvoir finir un cursus universitaire de bac plus 5. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'inscrire pour faire justement cette préparation militaire et donc avoir 2 ans de délai. Et ce qui se passe, c'est que l'armée, à ce moment-là, est plus obligatoire pour ceux qui sont 18. Et je ne sais plus qui me parle de ça. Il me semble, mais c'est assez flou, mais il me semble que c'est Tariq Benavides qui me parle de ça, qui a un bataillon de Joinville,
ouais,
pour les sportifs. Alors moi, j'étais moins 15 à ce moment-là, à 21 ans. Et il me dit, mais tu sais que maintenant, l'armée est plus obligatoire, mais le contingent existe toujours. Et donc, j'ai écrit au ministère un courrier et à la Fédé, ainsi de suite, en disant que je voulais intégrer le bataillon de Joinville parce que je voulais m'orienter vers une carrière de tennisman professionnel. Mais le but, c'était que pour ne pas faire l'armée, en fait.
Ouais.
Parce que ceux qui étaient passés avant, je savais très bien que quand il y avait des tournois, on n'était pas obligé d'avoir une présence sur site à Fontainebleau. Et donc, je me suis dit, si c'est le cas, ça me fait une année sabbatique. Pendant 10 mois, je joue au tennis et puis après, je reprends. Et au moins, je ne me ferai pas chier dans une caserne à Metz en train de classer des feuilles de toutes les couleurs, quoi. Donc, c'était un peu ça la stratégie. À mon grand étonnement, 15 jours avant de démarrer, ils disent, il reste une place. Si vous voulez, vous pouvez intégrer dans 15 jours l'armée.
Elle est pour vous, M. Bouter.
Et c'est comme ça que j'intègre l'armée donc, à mes 21 ans. Et en plus, j'étais qu'avec des, donc, entre guillemets, des joueurs qui avaient 3 ans de moins que moi, puisque c'était leur dernière année, c'était des gamins de 77.
Ouais.
77-76, et c'était la génération un peu Coutelot, Malcor, celle-là. Et donc, ils étaient tous déjà premières ou promo. Et moi, j'étais le, bah, le moins bien classé de tous ces joueurs-là. C'est pour ça que pendant une année, bah, je me suis fait un calendrier où je me suis mis un tournoi par semaine. Donc, j'allais jamais.
Donc, quand tu es au bataillon de Joinville, en fait, tu es à peu près libre de faire ce que tu veux si tu justifies d'une activité sportive de haut niveau, quoi.
Voilà. Et des inscriptions. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, quitte à le faire, autant le faire sérieusement. Donc, moi, je n'avais jamais vraiment appris à jouer au tennis puisque j'étais le joueur de club où je jouais avec les copains. On faisait de temps en temps un peu des entraînements physiques sur le terrain, mais ça restait. En plus, comme j'avais beaucoup d'heures de cours, j'avais très peu d'entraînement, moi, par semaine, puisque je jouais qu'une ou deux fois par semaine, puisque j'ai toujours eu ce rythme de 42 heures par semaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, j'ai jamais fait de physique, j'ai jamais couru, donc je vais essayer au moins de me structurer par rapport à ça. Et donc, j'ai fait la connaissance d'un mec sur Nancy qui était préparateur physique du monde de la boxe. Et puis, je lui ai dit, ben, est-ce que ça te dit qu'on voilà, tu commences à travailler, tu me fais un programme pour devenir, entre guillemets, un athlète, quoi.
David Martin, c'est ça,
non? Ouais, c'est ça. Yes. Et c'est comme ça que t'es parti, en fait.
Waouh. C'est d'avoir discuté avec les mecs au bataillon de Joinville, de voir que tu avais le niveau, de voir. C'était plein de prise de conscience?
Non, bah, pas du tout, puisque quand on est joueur de club, être moins 15, et puis la frontière entre moins 15 et le joueur pro, elle est monstrueuse. Moins 15, on est entre guillemets des stars dans son club. Mais pour moi, à ce moment-là, la frontière, moi, j'avais juste rencontré de temps en temps des mecs peut-être promo dans certains tournois ou première série. Mais quand tu es moins 15 et puis que tu es numéroté dans les 10 premiers Français, tu rentres déjà 3 tours plus loin, quoi. Donc, c'était des gens quasiment… Et par contre, il y a eu un autre fait qui était important aussi. Et ça correspondait un petit peu en termes de timing. C'est que nous, à la SPTTMS, on était une bande de jeunes, et ça, je pense que ça a été très important. C'est qu'on a été, pour un club, hein, on était une douzaine de négatifs, ce qui est beaucoup pour un club.
Ouais, gros réservoir.
Mais une douzaine de négatifs formés dans le club. Et donc, on était vraiment entre, depuis que j'ai 18 ans, donc quand j'étais 3-6 ou 2-6, on était une quinzaine entre 3-6 et moins 30. Et ça aussi, ça a été une émulation, les étés, de jouer ensemble. On jouait avec des moins forts, des plus forts. Il y a eu un noyau très fort dans ce club. Et on a réussi à monter en National 2, en National 1B. Et on est même monté en National 1A. Et on est monté en National 1A avec qu'un seul mec qui était première série, qui était un Uruguayen. Qui est venu, qui était là parce qu'il avait des attaches dans le club, c'était Victor Caldarelli. Et on avait une première série et on n'avait que des négatifs derrière. Et on est monté en National 1A avec cette équipe-là. Et on jouait en National 1A des équipes comme le TCP ou le Patton, où ils avaient 5 ou 6 numérotés, mais le dernier numéroté, il était numéro 30 français, quoi.
Ouais,
putain. Et donc, on a commencé à jouer contre ces mecs-là.
Et vous n'êtes pas alors, fait découper ?
Ce qui est bien dans ces matchs par équipe, c'est que nous, quand on recevait à la STTMS, tu jouais dans des salles où c'était gelé en hiver. On était sur de la moquette qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, c'était des vrais guet-apens. Si tu ne la maîtrisais pas, cette moquette-là, des fois, tu faisais des slices, ça allait à 10 000. Des fois, tu faisais des slices, ça s'arrêtait. Et puis, on avait un arbitrage maison. Donc tout ça… et avec les matchs par équipe, on était quand même, on jouait devant nous à la SPTMS devant 400 ou 500 personnes, hein, les matchs par équipe. Hein.
Et comme aller faire la Coupe Davis au Zimbabwe, quoi, venir à Metz.
Ouais, d'un match quand on était 2-6, on a joué le Patton et joué. Moi, j'étais en numéro 5 à 2-6 et j'ai joué Florian.
Ouais.
Jean-Baptiste Florian, ça te dit quelque chose?
Ouais, qui a joué en double beaucoup avec Santoro aussi.
Ouais, ouais. Et moi, je l'ai joué. Il était 95e joueur mondial. Et j'étais 2-6. Et j'avais perdu 7-6 au troisième. Et donc, il y a eu plusieurs matchs comme ça qui ont fait que eh ben, tu te dis, bah, toi, les mecs. Et puis, 3 semaines après, comme c'était en hiver, c'était des mecs qu'on voyait peut-être à la télé jouer l'Australian Open.
C'est ouf.
Peut-être que ça aussi, ça a très certainement fait des déclics en disant, bah, d'un point de vue coût, ces mecs-là, ils ne sont pas forcément plus forts que toi. Mais par contre, après, au niveau physique, au niveau plein de choses. Bah oui, ils étaient bien plus forts que toi sur la constance, mais sur un match, par équipe sur Moquette à la SPTMS, s'il fait moins 10, tu peux les accrocher, ces mecs-là.
Le programme de notre ami David Martin, comme il était boxeur, il a réussi à te faire un truc spécialisé au tennis. Ça ressemblait à quoi? Comment ça t'a…
Il avait une spécialité, donc il travaillait sur des protocoles aussi de muscu, de force explosive et autres. Et donc, il a analysé le tennis d'un point de vue analytique et besoin physique. Et donc, il a travaillé un programme. Mais je pense qu'une de ses qualités, la première et puis notre démarche à nous, ça a été d'être pas du tout influencé par rapport au monde du tennis. On n'a pas du tout reproduit ce que faisaient les aînés, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de typique dans les sports. Dans les sports, quand ça reste, entre guillemets, dans un même milieu, là, tous les gamins, ils s'entraînent au CNE. Quand il y a les pros qui jouent, ils voient comment ils s'échauffent, ils les voient en salle de muscu. Et ils reproduisent les mêmes schémas. Et ce qu'il y a, c'est que nous, comme en fait, moi, j'avais aucun contact avec ces gens-là, comme j'étais, entre guillemets, d'un autre monde, ben, on est parti de zéro. Et en termes d'entraînement, moi, je me suis entraîné avec des athlètes, des lanceurs de poids, des lutteurs, des boxeurs, mais pas du tout des gens du tennis, en fait,
okay.
Des basketteurs. Et on a réussi à réfléchir et à prendre certaines choses et certaines bonnes pratiques d'autres sports en termes de préparation. Et donc, automatiquement… Et j'ai eu un entraînement physique déjà, je pense, beaucoup plus important que les joueurs de tennis, parce que c'était vraiment la chose qui manquait. Et puis surtout, le tennis, par contre, ça, c'était une autre approche. J'ai dû tout désapprendre pour réapprendre à jouer au tennis. Parce que ça vient aussi d'un système universitaire et surtout dans le monde de la technique et des sciences. Il y a des process en mathématiques et des marches à suivre. Et des procédures pour arriver à résoudre des problèmes, des équations ou autres. Et en fait, la meilleure façon de reproduire quelque chose, c'est de se l'approprier, de savoir comment on le fait. Ça paraît bête quand on le dit, mais ça a été la première des choses techniquement que j'ai faites. J'ai appris à jouer au tennis. Donc, j'ai regardé les meilleurs serveurs de l'époque, les meilleurs coups droits de l'époque, les meilleurs revers de l'époque, ainsi de suite. Et j'ai essayé de travailler sur des éléments communs sur tous ces joueurs en termes de coups droits, revers et services. J'ai réussi à tirer des invariants chez tous ces joueurs-là. Et donc, après ces invariants, on a fait le travail physique pour justement être capable de le faire et le reproduire, et le travail technique pour pouvoir maîtriser ces gestes.
Et c'est le mécanicien qui parle, là. Hein. Attention. Hein.
Parce que quand on sort de 6-7 années d'études avec… Parce que c'est le but des études, c'est d'apprendre des process. Après, une fois qu'on maîtrise ces process-là, on peut aller connaître la vraie vie sur le
circuit
actif et l'université et l'entreprise. Donc, ça sert à ça, l'université. Ça sert à donner les bases de savoir comment travailler pour après comprendre et travailler sur un métier. Et en fait, comme je connaissais rien d'autre, il fallait bien que je travaille par rapport à quelque chose d'acquis, quoi.
Et donc, justement, pour basculer sur ce que tu appelles la vraie vie, quelle a été ta première tournée satellite et comment tu as obtenu ton premier point ATP? Tu t'en souviens?
Mon premier point ATP, ça a été pareil, de façon un peu bizarre. Il y avait un circuit satellite en France où dedans il y avait Mulhouse, et les circuits satellites à l'époque, c'était trois étapes qui se jouaient, et après, donc dans trois villes. Et il y avait une quatrième où c'était le Masters. Yes. Et sur le Masters, c'était, entre guillemets, les meilleurs joueurs de ces trois premières étapes. Donc, si on passait un tour des qualifs, on avait 0,5 points, ainsi de suite. Enfin, bref. Et puis après, on totalisait un nombre de points. Et après, on était classé en tête de série par rapport à un nombre de points pour le Masters. Je n'avais pas fait la première étape. Et le tournoi de Mulhouse n'était pas loin. Et on pouvait s'inscrire comme ça. Et je crois que je m'étais qualifié, j'avais fait deuxième tour. Ouais. Et donc, j'avais pris, je crois, ça devait être 3 points de circuit. Et si je prenais un point de circuit supplémentaire, je crois, eh ben, je pouvais être qualifié pour le Masters.
Okay.
Donc, j'ai fait la deuxième étape et je me suis qualifié. Et je crois que j'avais perdu au premier tour. Et puis après, au Masters, j'avais dû perdre au premier tour ou faire un deuxième tour et j'avais gagné mon premier point.
Ok. Tu as ressenti un truc particulier de te dire, ça y est, je suis classé, je suis peut-être un peu pro. Enfin, comment tu voyais la chose?
Ah non, non, pas du tout. Je me dis, bah tiens, ben voilà, j'aurais été une fois dans ma vie classé dans le circuit ATP. Quoi.
Ah ouais, t'imaginais rien de ce qui pouvait arriver derrière.
Puisqu'à ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'était je faisais des tournois pour essayer de gagner un peu d'argent, des tournois tennis pro et autres. Et puis c'était vraiment, mais ça c'était tout au début de ma période au bataillon de Joinville. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les jeunes joueurs français à l'époque hein, qui commençaient sur le circuit, donc c'était toute la génération Clément, Grosjean, Perlan. Comme c'était des jeunes de la Fédé, ils faisaient les circuits en France, puisqu'il y avait déjà beaucoup d'étapes. Et moi, en regardant les papiers, je me suis rendu compte que les circuits quand même à l'étranger, c'était bien moins fort qu'en France. Et j'en avais vu un en Grèce. Et donc je me suis inscrit, après j'avais pas beaucoup d'argent, hein. Donc, j'avais demandé de l'argent à mes parents pour me payer le billet d'avion. Ouais. Je me rappelle, j'avais même vendu des raquettes pour me payer un peu d'argent pour que je puisse là-bas vivre pendant 3 semaines, 1 mois, puisque ce n'était pas pris en charge à l'époque. Et pour arriver sur place et puis m'acheter un réchaud, un sac de couchage.
Ah ouais, tu étais en mode campeur.
Ah ben oui, oui, c'était ça. Ben, il n'y avait pas le choix, puisque à un moment, en plus, la Grèce, l'hôtellerie, c'était cher. Et je me rappelle, en plus il avait fait beau, et je dormais dans un immeuble qui était en construction sur une prison désaffectée en fait. Et c'était le début, et donc j'avais rencontré le propriétaire, et c'était à 500 mètres du club. Ouais. J'ai dit, ouais, est-ce que je peux dormir là pendant, et je vous paye un petit truc. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier circuit. Et là j'ai pas mal joué. Puisque j'avais dû faire un quart, une demi et une finale sur les 3 premières étapes et j'avais gagné 20-25 points ATP.
Et là, tu étais tout seul, tout seul, tout seul.
Tout seul, oui.
Ah ouais, détermination, quoi.
Et puis après, de toute façon, à l'époque, l'équation, elle n'était pas compliquée. Hein. Je savais qu'en termes d'argent de côté, je pouvais, sans gagner d'argent, j'avais 3-4 mois de circuit devant moi.
Et pendant toute cette année-là, tu étais au bataillon de Joinville, rattaché au bataillon, c'est ça?
Okay. Oui. Après, donc, je suis rentré…
C'était un peu la tangente aussi d'aller faire les tournois. C'était...
Ah oui, c'était aussi l'obligation. D'accord. Après, j'avais un petit salaire de l'armée. Hein. Je gagnais 400 ou 500 francs par mois. Hein.
Ok. Sympa, les gars.
Mais celui-là, il partait vite puisque j'avais des gardes obligatoires et je les vendais en fait. Parce que faire l'aller-retour à Paris, ça me coûtait plus cher que de vendre ma garde à quelqu'un. Donc, quelqu'un qui était sur place, un autre sportif, et très souvent, c'était ceux qui faisaient de la voile, qui avaient très peu de compétition, et ben, plutôt que de rien faire, et ben, je leur vendais une garde d'une nuit, parce qu'il y en avait une dizaine ou une quinzaine à faire pendant les 10 mois.
Ça coûtait combien? Tu pouvais gagner combien et tu la vendais combien, toi?
Non, enfin, je la vendais. Je l'achetais à quelqu'un. C'est pour ne pas faire, je donnais de l'argent.
Ah, d'accord. Okay.
Donc, ça devait être 200 francs ou 300 francs. Pour éviter de faire un aller-retour à Paris et puis de perdre 2 jours. Quoi.
Et tu te souviens de ta pire galère sur le circuit satellite, vraiment un truc ubuesque que tu as pu vivre?
Bon, ça a été un premier circuit en Inde. Parce que là, pareil, quand j'étais dans ma dynamique, après je suis revenu, j'ai refait un circuit en France, j'avais dû prendre 1 ou 2 points, c'était super dur, le niveau était super élevé. Ouais. Parce que tu avais plein de mecs en France qui étaient moins 15, moins 30, promo, et le niveau était monstrueux. Pour gagner un circuit en France, il fallait vraiment, vraiment bien jouer. Et donc, je me suis dit, je vais repartir faire un circuit en Inde où il y avait Ahmedabad, tout ça. Et c'était mon premier vraiment long, long voyage. Donc, j'avais gagné aussi 20 points. Et pour retourner, on passait par Delhi. Et je n'avais pas compris un truc. C'était pour prendre l'avion, il fallait filer un bakchich au mec.
Comment ça se fait?
C'était
les normes de l'époque.
Les modes de fonctionnement dans certains pays. Hein. Alors, c'était pour parler d'Ahmedabad et à la Delhi. Et je me rappelle, il y avait du brouillard. Et le mec, il me disait, non, on ne peut pas, il n'y a pas de place parce qu'il y a du brouillard à Delhi, parce qu'il y a tout le temps du brouillard à Delhi. Et il me disait, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Et je suis resté pendant plus de 2 jours dans l'aéroport.
Ouais, sympa.
Et à un moment, je vois un étranger, il glisse un billet de 100 dollars au mec et il part dans l'avion. Et donc, après, j'ai fait la même chose et j'ai pu prendre mon avion et rentrer. C'était une bonne galère. Hein.
Pendant ce temps-là, tu appliquais le programme physique de ton coach. Tu commençais à engranger un peu un bagage, la confiance, du physique. Enfin, tu sentais que tu progressais quand même au fur et à mesure?
Oui, quand même. Surtout qu'en fait, on avait basé notre mode d'entraînement et de travail pour à la fois supporter un match par jour et un entraînement physique par jour. Parce que c'est une des difficultés dans le tennis. C'est pareil, sans connaître comment ça se passe, c'est qu'on a à peu près 30 semaines de tournoi par an. on enlève les déplacements, la période de 6-8 semaines hivernales où on est obligé de faire… il ne reste plus beaucoup de temps pour s'entraîner dans le tennis.
Ouais.
Donc, on s'est dit, ben, voilà, pour pouvoir s'entraîner et continuer à progresser, il faut être capable de supporter un match par jour plus un entraînement, une charge de travail. Et c'est comme ça qu'on avait, que mon programme avait été fait, plus vraiment tout un système de routine. Les matins, tout ce qu'il fallait, donc voilà, abdos, gainage, étirement, pompe, en réveil musculaire.
Ouais.
Et donc voilà.
Et tu étais hyper assidu ?
Ouais, ouais.
Tu étais déterminé quelque part. Et donc à l'issue de cette première année au bataillon de Joinville, t'as quoi ? T'as le niveau pour basculer en challenger ? Comment ça s'est passé la suite ?
Bah, oui, puisque je dois, la première année, je dois être 300 ou 350. Ouais, puisque à ce moment-là, j'enchaîne. Je reviens et puis là donc je dois être 500 et je fais un circuit en Belgique. Je me demande si je gagne pas les quatre tournois en fait. Ah non, il y en a une où je perds en finale et je gagne les quatre tournois. Je crois. Bah justement avec et celui qui finit deuxième c'est Christophe Rocus.
Ouais, c'est allé hyper vite parce que 2 ans après t'être lancé sur le circuit, tu joues Roland et tu tombes sur Pioline au deuxième tour. C'est bien ça?
Ouais, là c'est pareil, mais là j'avais pas de niveau puisque pas de niveau. Puisque je devais être 300 ou 320 et j'ai noué le quart pour jouer les qualifs.
D'accord. Donc, tu sors de qualif.
Ouais.
Passes ton premier tour.
Je bats un bon jeune. Enfin, jeune par rapport à moi. C'était Stepanek au dernier tour, je crois.
Radek. D'accord.
Radek Stepanek au dernier tour. Et puis, ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis dit, bah, un peu comme le premier point, je me suis dit, ouais, je suis dans le tableau de Roland. Bah, ça arrivera qu'une seule fois puisque voilà, j'étais 350 et pour moi, c'était encore très, très loin. La porte descend.
Ouais.
Je ne l'avais pas appréhendé. Et je sais qu'il y avait un qualifié qui devait jouer à Gassi. Et sur les 32 qualifiés, voilà, moi, j'ai prié toute la nuit pour tomber sur Agassi. Parce que je me suis dit, bah, tu vas peut-être faire une fois Roland, tu tombes sur Agassi. Voilà, tu as tout gagné. Quoi.
Et tu l'as joué 1 ou 2 ans après, hein, c'est ça ?
Ouais. Et je tire peut-être le meilleur tirage possible puisque je dois jouer à un joueur qui est 98e ou 100e, qui est Christian Rink. C'est un Allemand. Et je gagne en 4-7, je crois. Et je tombe sur Pioline.
Sur le central ou sur un gros court ou t'étais où ?
Là, je me dis, je vais jouer sur le central. Et Pioline avait demandé de jouer sur le… C'était le 2.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
À l'époque où le 10, celui qui était tout de suite, qui touche le centre, enfin, qui, il y a les escaliers, celui qui est à droite du central.
Ouais.
Et puis voilà, et puis je commence le match et je crois que je perds 5-0 d'entrée. Tétanisé, pétrifié, en plus le mec joue bien, il monte au filet, la science du jeu, je comprends rien. Puis j'arrive à me détendre, je remonte je crois à 5-5, je perds et ça commence à être un peu équilibré. Il me semble que je perds le deuxième aussi. Et puis au troisième, je crois aux alentours 3 partout et le mec il vient au filet tout le temps et il anticipe et j'arrive pas à le passer. À un moment, balle de break et puis je me dis allez hop et je frappe de toutes mes forces sur lui. Et la balle, elle passe à ça de son visage. Et il veut l'éviter, il la touche un petit peu, elle est dans le mur hein, la balle.
Ouais.
Il la touche un petit peu et je le break suite à ça. Et donc, je gagne le troisième set et voilà. Et puis après, je perds 6-4 au quatrième. Puis à la fin du match, il me fait une poignée de main mais, et je lui la tiens comme ça pour suivre. Et je fais vite, je ne peux pas me regarder. Bref, et puis ça se finit comme ça.
Il avait mal pris le passing.
Bon, après, certainement, mais j'ai envie de dire, nous, joueurs de club, c'était des choses qui étaient tellement… En plus, chez nous, c'était des jeux. Le mec, il ratait une amortie à l'entraînement ou même en match avec les copains, ben, tu pouvais être sûr, il se prenait la balle au dos, quoi. Et c'était les jeux de club, en fait.
Ouais.
C'est comme ça qu'on joue au tennis, nous. Et donc, c'est vrai que ces codes-là n'étaient pas forcément les mêmes au haut niveau. Et donc, je comprends qu'à un moment, peut-être mon attitude a dû le perturber parce que j'ai dû lever ma raquette rapidos comme ça et il n'a pas dû le voir ou ainsi de suite. Et puis voilà. Et là, je vais dans la douche. Puis tout d'un coup, je sors de la douche et puis un mec de l'ITF ou de Roland-Garrosien, il me dit, bah, y a les journalistes qui veulent vous voir. Et je fais, pourquoi ? Y a Pioline qui a fait une conférence de presse et puis il y a eu des mots vous concernant et vous avez un droit de réponse. Et là, je me retrouve, première conférence de presse de ma vie, il y a quoi ? Il y a 40 journalistes devant moi.
Ouais.
Et moi, je rigole. Et moi, je dis, mais c'est grotesque. Je dis, le mec, il est numéro 1 français. On s'étonne pourquoi à un moment, l'image du tennis est aussi pathétique avec des numéros 1 français avec cette attitude-là. Je dis, c'est ridicule. Il avait tout à y gagner hein, parce qu'il avait dit que je ne savais pas jouer. Il avait raison, mais que je ne savais pas jouer, que je faisais n'importe quoi, que je frappais dans tout ce qui bougeait et que c'était impossible de. Et c'est pour ça qu'il avait eu du mal contre moi. Et donc, gros titre dans l'équipe, c'était à l'époque de la sortie du film Petit meurtre entre amis. Et donc, le lendemain, une demi-page dans l'équipe, Petit meurtre entre amis, c'était le titre de l'équipe où il y avait les dires de Micheline. Et moi, ça m'avait beaucoup fait rire. Et après, ben, quand j'ai continué à le voir, et ben, je lui disais bonjour avec un sourire et jusqu'à un moment où l'abcès a été percé. Et puis voilà.
Vous êtes devenu pote après ?
Pote, non, mais de bonnes relations, quoi. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui m'a. Quand je suis rentré après dans le milieu, quand j'étais 100, 150, ben, je me suis rendu compte que l'état d'esprit chez les joueurs était quand même très, très bon.
D'accord.
Il y avait beaucoup de respect ou il y avait une considération de l'autre.
Lors de ce Roland 98, du coup, tu goûtes un peu au niveau et puis tu prends ton premier gros chèque.
Ah ouais. J'ai gagné 50 000 francs ou 60 000 francs, ouais.
Et cet aperçu du haut niveau, plus les conditions de jeu, plus l'argent, est-ce que ça a été une motivation supplémentaire ? Enfin, comment ça t'a drivé, quoi ?
L'argent, ça n'a jamais été… L'argent, en fait, après ce qui s'est passé, moi, l'argent que je pouvais gagner, je le mettais de côté, en fait, pour essayer d'avoir un peu plus, pour après prendre un deuxième entraîneur, pour essayer de partir de temps en temps avec un kiné, pour voyager dans de meilleures conditions… Et l'argent a toujours été a toujours servi à ça jusqu'à ce que puisque quand je suis rentré dans les 50, j'espérais encore progresser puisque mon objectif c'était de rentrer dans les 20 à ce moment-là. Et donc ça a toujours été cet argent-là pouvoir avoir des meilleures conditions, mieux m'entraîner et ainsi de suite.
Déjà quand tu faisais tes futurs à l'autre bout du monde parce que le niveau était un peu plus faible qu'en France. Derrière, tu as atterri en challenger et progressivement sur le circuit principal. Comment tu as fait évoluer ton jeu au fur et à mesure de ces futurs en France où tu trouvais ça injouable pour progressivement atterrir dans le top 100 quoi.
En France, ça a toujours été fort, hein, même les challengers. Mais après, je me rappelle, j'ai fait sur les autres challengers, j'ai enchaîné beaucoup de points aussi sur les futurs ou des petits challengers, mais surtout… Surtout en salle, en Allemagne. Et après, il y a eu une période qui a précipité les choses. Parce que le problème, c'est qu'à un moment, on s'entraîne, on garde la continuité et autres, mais la progression, elle est cyclique ou elle est par palier. C'est qu'à un moment, le fait d'avoir ce transfert du travail à la maison ou en salle ou sur la piste ou sur le terrain… Il ne vient pas automatiquement en match puisqu'il y a des choses qu'il faut s'approprier, qu'il faut transférer, être capable de placer dans un système de match. Et l'élément déclencheur, c'était une période où j'avais commencé en challenger et c'était une période en salle en début d'année. C'était les débuts de l'Audra et on avait commencé à jouer en double ensemble.
Ouais.
Et on s'entendait plutôt bien parce qu'on était un peu niqués tous les deux. Lui un gaucher, moi un droitier, on servait bien. En plus, en salle, on jouait très souvent sur de la moquette ou du bois et on n'était pas simple à retourner. Et il y a eu une période où j'ai enchaîné en fait 4 challengers. Ça devait être, il y avait Besançon, Grenoble, un autre en Bretagne et un autre en Allemagne, c'était Magdebourg. Vainqueur simple et double du premier, vainqueur simple et double du deuxième, vainqueur simple et double du troisième et demi-simple et demi-double du dernier. Et en fait, en l'espace d'un mois, puisque c'était toutes les semaines, j'avais gagné 18 ou 19 matchs en simple et une douzaine en double d'affilée. Quoi. Et suite à ça, je suis rentré dans les 100 à la fois en simple et à la fois en double.
Tu t'es dit quoi en passant la barrière des 100 ?
Les 100, en plus, c'était quelque chose, puisqu'en plus, il y avait autour de moi pas mal de joueurs qui ont… pas mal, il y en avait 2-3 des joueurs français qui ont toujours bien joué, mais qui ont été 101, 102, 105, 110 et qui ne sont jamais rentrés dans les 100. Et c'est vrai, quand on a le classement à 2 chiffres, on est content. Et surtout qu'à un moment, c'est le classement où on rentre dans les grands chelems.
Et toi qui ne pensais pas du tout devenir joueur de tennis pro, à quel moment tu as commencé à avoir de l'ambition au final ?
L'ambition, elle a toujours été là en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé, je m'étais dit, je vais essayer de rentrer dans les 500, qui est une belle performance. Et puis après, tu rentres dans les 300. Après, ben, je me rappelle, 300, ça a été 150. Après, 150, ça a été dans les 100. Et puis après, dans les 100, ça a été dans les 50. Et puis l'objectif qui était après, c'était de rentrer dans les 20. Donc, ça a été à chaque fois des petites étapes comme ça, des petits objectifs, mais jamais à se dire, ben voilà, je vais être dans les 10, quoi. Jamais.
J'ai vu que Jérôme Potier t'avait entraîné à un moment
Ouais,
donné.
beaucoup.
Beaucoup, ouais.
Beaucoup.
Est-ce que tu peux
Côté.
nous dire un mot sur GG le costaud qu'on a eu pendant ce podcast? Et c'était un épisode assez incroyable.
J'ai eu deux entraîneurs tennis en fait. J'ai eu un du côté à Nancy, donc à côté de Metz, avec qui justement, tu sais, je t'expliquais tout ce travail de procédure pour réapprendre mon jeu, pour savoir comment faire un coup droit, un revers, un service. Donc c'était avec lui, c'était avec Bernard Bonnet. C'était un BE2 de la région. Et après, quand j'étais 150 ou quelque chose comme ça, et c'est là où on voit, on a de la chance d'avoir une fédé, c'est que j'aurais dit, voilà, moi je m'entraîne beaucoup en physique à l'INSEP, puisque mon préparateur physique il travaillait aussi beaucoup pour des athlètes à l'INSEP.
D'accord.
Je m'entraîne beaucoup à Paris. Est-ce qu'à un moment, il y a possibilité de venir s'entraîner? Et ils nous ont dit oui, ils m'ont dit oui, tout de suite, oui, pas de souci, tu viens quand tu veux, on trouve des jeunes. Après, ce qui est bien, c'est qu'on s'est tout de suite bien entendu avec Jérôme, parce que lui, c'est un travailleur, c'est un besogneux. Et en fait, moi, dans mon système d'entraînement, les périodes justement où j'étais sur Paris, je faisais du tri quotidien. Donc, trois entraînements jour. Mais une des choses qui était les plus importantes dans notre préparation physique et donc de ce qui venait de mon entraîneur, c'était les temps de repos. Et qu'il fallait que j'aie minimum entre allez, 3 heures et 4 heures entre chaque entraînement de repos. Et donc, quand je faisais deux séances de tennis le matin et que j'étais obligé de faire une séance de muscu physique à la journée, on se rend compte que si on a déjà 8 heures de repos entre deux séances, donc ce qu'il faut sur le tri quotidien, ça veut dire qu'on rajoute en plus 3 fois 2 heures d'entraînement, c'est qu'on est 6 heures, donc 6 heures plus 8, on a 14 heures. Donc ça veut dire que.
Faut se lever à 1 h du matin.
Non, 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 mais. Et à mon premier entraînement de tennis, je le faisais à 7 heures à Roland. Ce qu'il y a, c'est que Gégé Potier, lui, était aux anges, parce que lui, il adorait ça. Et par contre, avec lui, j'ai réussi à beaucoup travailler et m'a fait beaucoup travailler tout ce qui était automatisation des coups, des types de frappes, du placement, de toutes ces choses-là. Et on a fait, voilà, un travail qui était monumental, qui m'a permis. À un moment de rentrer dans les 50, c'était le fait de ne plus rater certaines choses. Voilà, une balle basse, une montée au filet, un passing long de ligne court, une volée court croisée, toutes ces choses-là. À un moment, ben, c'était et puis à force de répétition, comme les gammes, il avait mis un système en place de travail et de routine où ben, voilà, j'étais devenu monstrueux sur ces coups-là parce que. Je les ratais plus. Et ce qui était drôle, c'est que il me fallait des gamins pour jouer à 7 heures du matin, et 90% ils disaient non. Et il y en avait deux qui venaient, hein, qui devaient être 400 ou 500 à l'époque ou 600. C'était Thierry Hassion et Florent Serra. Parce que les deux-là, c'était des travailleurs aussi. Et pour eux, venir jouer avec un joueur qui était dans les 100, ben, c'était génial. Et donc, c'était les deux seuls qui acceptaient de venir à 7 heures du matin à Roland pour se faire des entraînements avec moi.
Énorme.
Ouais.
Biff et Florent le besogneux aussi.
Et
Incroyable.
donc voilà, et donc c'est depuis ce moment-là où avec Biff, eh ben, on a fait beaucoup de voilà d'entraînement ensemble et autres, et qu'on s'est bien entendu et qu'on est devenu super proches.
Génial. Est-ce que tu peux nous raconter cette finale à Milan en 2001 contre Roger, cette semaine même dans les grandes lignes jusqu'à la finale?
Alors la semaine, elle est très particulière. J'arrive là-bas. Il y avait depuis pas longtemps. Mon préparateur physique qui m'accompagnait aussi tout le temps, on commençait à faire un bon travail avec Jérôme Golmar à l'époque, il voulait aussi un préparateur physique, on avait sympathisé et il nous avait un petit peu rejoint, il devait être 30 à l'époque peut-être, et David lui faisait sa préparation physique.
D'accord.
C'était la première semaine où David était là, à la fois pour Jérôme et à la fois pour moi. Et tout de suite en début de semaine, comme moi, il me voyait beaucoup plus, il a passé plus de temps à Jérôme. Et je sais qu'on avait eu un clash à ce moment-là. Et cette semaine-là, je l'ai pas joué tout seul, mais il y a eu une bonne partie jusqu'à ce que je joue dans le tableau Jérôme Golmar. Je le joue en plus
Non.
sur cette
Règlement de
scène.
compte.
Et donc après, ben voilà, je l'ai battu, Jérôme est parti, et puis on en a fini la semaine normalement. Mais c'est vrai que j'avais eu un tableau en plus qui n'était pas simple. Alors je me rappelle peut-être pas de tout le monde. Il me semble que j'avais dû battre, il devait y avoir Gambil, Golmar, Santoro peut-être, et un autre bon joueur, je ne sais pas si c'était pas Ruzetsky. Donc c'était un tableau où j'avais battu 3-4 mecs dans les 30 à l'époque. Et puis en finale, je joue Federer, qui n'a jamais gagné une finale, mais qui est le comme on l'appelait depuis X années, le Sampras, le futur Sampras, qui avait commencé à se calmer. Je l'avais joué un an avant peut-être, en demi-finale à Grenoble, où j'avais gagné. Et donc, pour moi, je le rejouais en finale. C'était le même gamin. Et puis, je pensais vraiment, vraiment le battre, quoi. Donc c'était une finale un peu particulière parce que c'est la première fois que j'ai entendu l'hymne national à l'époque. Ils avaient, sur la présentation, ils avaient monté les deux drapeaux et puis il y avait la Marseillaise. C'était la première fois qu'on joue la Marseillaise pour moi.
Ah, c'est bon ça.
Ouais, ça a été un grand un moment d'émotion qui était assez fort.
Et ton papa ou tes parents venaient te voir de temps en temps sur les... Jamais.
On a toujours foutu une paix royale. Juste mon dernier Roland Garros, j'aurais dit allez, vous allez peut-être venir. Et puis je les avais invités dans un hôtel et puis ils étaient venus me voir. Mais sinon, jamais ils venaient me voir.
Et t'aurais aimé ou même pas?
Non. Bon, après c'était non, mais ils voulaient me laisser dans mon truc. Ils voulaient pas me. Non, ça a été des. Après, d'un point de vue éducation et autres, j'ai des parents incroyables. Hein. J'ai le choix de jouer au tennis, ils m'ont juste averti sur les choses. Et dans tous mes choix, ils m'ont toujours soutenu. Quoi. Et ils ont jamais interféré dans mes choix, dans mes décisions et autres. Alors, mon père, essentiellement, m'a toujours donné peut-être un petit avis à un moment, mais ouais. Qui restait juste un petit avis ou me dire fais attention, prends garde. Mais après, ils sont toujours restés très, très, très loin de tout ça. Enfin, loin, non.
Extérieur, quoi.
Très proche, mais jamais, jamais interféré ou jamais, ils n'ont jamais été à l'origine d'un choix ou vouloir vivre quelque chose par procuration. D'ailleurs, j'ai dit des phrases de mes parents, c'est qu'ils me disaient non, on n'est pas fiers de notre gamin, on est content pour lui, quoi. Donc, il n'y avait pas cette notion de fierté d'eux. Par contre, ils étaient contents pour moi. Ils étaient même ravis. Après, ils ont toujours gardé quand même, essayé de garder beaucoup de distance.
Cette semaine-là, tu avais battu donc Golmar, il était 59e, 7-6-6-4. Santoro, 41e, 7-6-6-4, pareil. Gambil, à deux mains, 4-4. Ruzetsky, en deux tie-break, il était 52e. Et Roger, donc 6-4 au troisième pour lui. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot aussi de ta victoire sur Louga à Bâle quand il était numéro 1 mondial? C'est le Graal de battre un numéro 1 mondial dans son sport. Enfin, qu'est-ce que ça t'a, comment tu l'as vécu?
Il me semble que je l'avais. Ce qu'il y a, c'est que j'avais battu, ça devait être 3 mois avant.
L'Australian,
hein, il me semble.
Ouais, c'était en 2001 aussi, ouais. Ouais.
Ce qui se passe, c'est qu'à l'Australian, je perds 2-7 un break déjà.
Ah oui, tu remontes le 2-7-0, d'accord.
2-7-0, un break, et puis il se met à pleuvoir. Et donc, il y a le toit qui arrive sur l'Arthur H, ou non, pas l'Arthur H.
Margaret, non? Hisense.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis aux anges.
Bah ouais, ça joue en indoor.
Il y a le toit qui arrive, on joue en indoor, il n'y a plus de vent, plus de soleil, pas de bruine.
Pas de tourterelles.
Voilà. C'était des hirondelles.
Des hirondelles.
Et à ce moment-là, il y a la coupure, il y a la rupture. Lui joue peut-être un peu moins bien. Et puis, moi, tout devient beaucoup plus facile et je gagne en 5-7.
Énorme.
Et donc, je rejoue à Bâle. Et là, je rejoue vraiment. Je commence à mettre en place tout mon jeu, que ce soit même sur terre battue ou en indoor. Hein. Et puis je joue. Et je pense que même lui, déjà, il y a aussi ce…
Souvenir, ce doux souvenir.
Je me dis, ah bah merde, je joue en indoor, j'ai joué en indoor en début d'année. Et puis voilà, après, c'est un match comme un autre.
Hein. Tu le prenais de vitesse, Clarent? Tu étais un peu sa bête noire au final, non?
Je le prenais de vitesse parce que, autant sur terre, sa deuxième balle, elle pouvait gêner un petit peu parce qu'il mettait un peu de kick, elle déportait. Mais sur dur, moi, elle ne me gênait pas du tout. Et un de mes points forts, c'était sur les jeux de retour et notamment en salle. C'était d'agresser sur les deuxièmes balles. Et donc, tu mettais la pression sur les deuxièmes et automatiquement, le mec, quand il servait, il avait de la pression pour sa première, donc il servait un peu moins bien, tu avais plus de secondes, tu allais provoquer la double faute. Donc voilà un petit peu. Et voilà, je l'aimais bien parce que c'était des qualités de frappe qui étaient super agréables à jouer pour moi.
Il y a pas mal de bruit derrière, je sais pas si pour l'audio c'est pas le top, je sais pas si Agassi à Roland au deuxième tour en 2001, du coup t'en gardes quel souvenir?
Ouais, un souvenir où j'étais défait parce que je jouais bien et je me rappelle, je me fais une entorse à 3-2 dans le premier. Et en fait, je décide de continuer et de finir le match, mais c'était complètement stupide puisque j'avais une entorse avec arrachement osseux. Et je me fais mon entorse, ouais, ça doit être à 3-2 dans le premier ou un truc comme ça.
Ah ouais, moche.
En plus, c'était l'année où vraiment sur Terre, je jouais le mieux. Voilà, après, on ne sait pas, mais moi, je croyais en mes chances parce que lui aussi, il avait un jeu qui, sur le principe que je pouvais bien aimer. Et je me fais ouais, à 3-2 dans le premier, c'était sur l'Anglen. Je me fais une entorse avec arrachement de osseux. Et je pense même à ce moment-là ne pas pouvoir jouer Wim. Et j'arrive avec un de mes gourous là, qui m'a brûlé, acupuncture ou autre, à réussir à jouer à Wim.
Waouh. Brûlé, c'est-à-dire, tu dis, il m'a brûlé.
Oui, parce que la médecine chinoise, ça s'appelle la moxibustion.
D'accord.
C'est des bâtons de moxa, en fait. C'est comme de l'encens. Il y a deux façons de traiter souvent les points d'énergie, soit avec l'acupuncture, donc qui est de la piqûre, ou alors pour ça c'est très souvent pour enlever des tensions, et puis il y a aussi pour rapporter de l'énergie, et dans ça c'est du chaud et des brûlures, donc il vient sur différents endroits de la peau. Alors il y a différents, il y a sur la tête, là, au niveau du ventre, des pieds, des genoux, des points où il approche justement le bâton de moxa qui est comme un bâton d'encens incandescent. Et il brûle à plusieurs endroits.
Et tu l'emmenais avec toi sur les tournois ?
Sur les tournées, ouais.
Ah ouais, gros budget entre le coach, le gourou.
Ah ben oui, mais après, ça faisait partie des choix. Hein.
Yes. Agassi, t'en avais quelle image l'année d'avant ? Tu rêvais de le jouer ? Non, un peu avant, en 98, ouais. 3 ans avant, tu rêvais de le jouer. Est-ce que tu l'idolâtrais un peu ou t'avais réussi à le considérer pour un joueur comme un autre, quoi ?
Il y avait un joueur, je sais pas, que j'adorais, mais que j'ai toujours adoré, que j'ai joué, c'était Ivan Izevich. Mais sinon, après, j'ai jamais idolâtré. J'aimais bien Lecomte et Berg, mais j'ai quasiment jamais eu de poster dans ma chambre de joueur de tennis.
D'accord. Philippe Houssis à Wim, t'en gardes un souvenir particulier ou pas ?
J'ai eu deux grands chocs tennistiques. Des mecs en face qui m'ont fait mal au bras. Lui, c'était monstrueux.
Sur la lourdeur, la qualité frappe, quoi.
Ouais, en plus, c'était sur gazon, je ne comprenais rien sur le gazon, j'ai jamais rien compris sur le gazon, de toute façon. Si la dernière année, mais comme j'étais déjà blessé au niveau de l'épaule, mais c'est Laurent Raymond, aussi un entraîneur qui a entraîné beaucoup Fabrice Santoro, qui m'avait appris comment jouer sur le gazon. Et c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu après, mais voilà, on ne m'avait jamais appris à jouer sur le gazon et il y a quand même une certaine technique de déplacement et autres.
D'accord.
Mais lui, ses frappes, elles me faisaient mal au bras, quoi. C'était le seul et puis il y en a un autre qui m'a fait cet effet-là, c'était à Long Island, c'était Enquist.
Thomas Enquist.
Ouais, Enquist, j'avais pris 3 et 4, je crois, à Long Island et tous mes jeux de service étaient à 40A et sur les siens, j'ai pris que des jeux blancs ou des jeux à 45 sur ce service. Il m'avait pulvérisé, mais d'une lourdeur. Mais vraiment des frappes où, putain, tu dis… Alors, j'ai pas joué un joueur peut-être comme Gonzalez qui aurait pu peut-être en coup droit me faire cet effet-là. Mais ouais, il y avait une lourdeur dans ces balles, les deux là.
Tu penses que Dominic Thiem aujourd'hui, c'est encore plus lourd ou c'est le même acabit ?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'effet parce que les deux, ils frappaient. C'était des plats recouverts, les deux. Dominic Thiem, il met un peu plus d'effet dedans.
Ouais. Et oui, t'es sans pras à l'US ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
J'ai eu des bons tirages en grand chelem. Hein.
Ouais.
Et 8, voilà. Il y avait, je pense, des types de joueurs que je pense que je ne pouvais limite pas battre. Déjà sur dur ou sur certaines surfaces, c'était des joueurs comme Grosjean, Clément et 8. Pour moi, c'était des purges, ces mecs-là. Parce qu'ils servaient bien. Ils avaient des deuxièmes balles qui étaient peut-être à part Clément, mais quand même, Clément, il mettait de façon 75% de première. Donc. Et par contre, c'est des joueurs qui ne donnaient rien. Ils ne faisaient pas une faute. Et en plus, ils étaient capables de venir au filet. Ce n'étaient pas des, entre guillemets, les terriens. Les terriens, j'adorais les jouer. Mais ces mecs-là, c'était des purges pour moi. Impossible. Je pense que… Et 8, je pouvais jouer 10 fois, je perdais 10 fois de suite.
OK.
Impossible. Pareil, Grosjean, pareil, Clément, je pense que ça aurait été des joueurs… c'était des joueurs qui… J'avais aucune part.
Et Sampras ?
Bah, Sampras, c'était un match bizarre parce que j'avais l'impression que tous les sets, j'étais devant lui, que j'avais pas de stress. Et à chaque fois qu'on arrivait dans les money time, il m'a mis un coup droit et il a fait la différence.
D'accord.
C'était incroyable. C'est ça. Je crois que je fais 7-5, 7-6, 7-6, il me semble. Pareil, le premier break, je fais un moment, une deuxième balle, côté avantage, pas forcément trop décalé, il décale, il met un coup droit. Après, au tie break, bout de course, coup droit, il me plante. Et la balle de match, il met un coup droit, je fais service volé, sur son revers, il décale. J'ai même pas le temps de je vois même pas la balle rebondir sur le sol. Mais il fait un coup droit et j'avais dû, pendant le match, peut-être gagner autant de points que lui, hein, parce que mes services, jeux de service étaient tranquilles. Mais c'est là où je me suis dit, le mec, il a une gestion du match qui est monstrueuse, en fait. C'est que voilà, pour lui, il a 10-15% des points qui sont importants dans le match et il les joue. Et par contre, il gagne quasiment tous, quoi.
Où est-ce que tu prenais le plus plaisir à aller en grand chelem? Pas oui, mais a priori, parce que ça a mis du temps.
Des grands chelems, aucun.
Qu'est-ce que tu n'aimais pas?
Bon, je sais pas. Après, peut-être, est-ce que c'est parce que à un moment, je suis arrivé tard ou autre, j'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit en grand chelem. Ça a toujours été des purges pour moi.
C'est pour ça que tu as passé que 5 premiers tours au final en 20 participations?
Je sais pas. Après, j'ai eu des tours, je trouve souvent des tours compliqués aussi, hein, puisque j'ai joué des mecs comme Pioline, Lapenti, Agassi, Kafelnikov, par exemple, à Roland.
Ouais.
Au premier tour, je joue Costa au premier tour, alors que je gagne, hein, mais pas des tours forcément simples. Je joue Labazé, il fait aussi quart l'année-là à Roland, donc il y a un gaucher qui joue pas mal. Après, je sais qu'en grand chelem, je joue aussi Kuerten, Lewitt, Sampras, Agassi, Philippe Houssis. À Wimbledon, j'ai eu des bons tirages.
Le Costa, tu l'avais battu en 5-7 à Roland, c'est ça?
Ouais.
Incroyable.
L'année avant sa victoire.
Ambiance de dingue, non? C'est tout plus…
Ah ouais, c'était bien. C'était sur le cours… ça devait être sur le cours 9 ou 10, juste derrière le CNE, là, le premier.
Ça a été ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance ou c'était un autre match?
Ah bah oui, il était bon celui-là. Ouais. Ah ouais, il était bon, surtout que j'étais aussi mené 2-7 à un break, je crois. Et je l'avais en plus joué, il y avait une petite histoire, parce que je l'avais joué sur en salle, il me semble que c'était à Toulouse, et j'avais gagné 6-2, 6-1. Et il y avait eu un truc où dans la presse, il avait dit, voilà, à un moment, je rejouerai sur Terre, ce serait pas la même chose. Et on se rejoue 2 mois après à Roland, quoi.
Est-ce qu'en 2 mots, à chaque fois, tu peux nous dire ce que tu as appris des partenaires de double avec lesquels tu as évolué, enfin, en tout cas, ceux que j'ai listés? Christophe Rocus.
Là, c'était un double, c'était une anecdote, une parodie, puisqu'on, voilà, on se dit, tiens, on s'inscrit, et puis tout d'un coup, on gagne un match où lui, il retourne l'acier. Il retournait, il ratait pas même au niveau volé, il avait une main de dingue. Dès qu'il touchait une volée, limite, il faisait une volée amortie gagnante. Et moi, je servais bien et tout, donc on s'est super bien entendu. Donc, pas grand-chose. J'ai beaucoup appris avec Fabrice Santoro, surtout sur la façon tactique de jouer, la façon de retourner, puisqu'on ne retourne pas du tout comme en simple. Les volées, en plus, on s'entendait bien parce que lui aussi, c'était la constance et moi, j'étais finisseur. Donc, c'était ouais. Des paires qui fonctionnent bien. J'ai eu un peu la même chose avec Clément.
Okay.
Où c'était pour moi des régales de jouer avec des mecs là, puisque je savais qu'ils retournaient tout le temps. Et après moi, donc, j'étais assez vif et explosif pour un grand gabarit. Donc devant, je bougeais pas mal. Et donc j'avais plus ce rôle de finisseur. Et eux, ben, voilà, ils mettaient 70% de première et tous les retours dans le terrain. Donc c'était super agréable. Donc limite pour breaker, il fallait que je mette un retour par jeu.
Parfait.
Et Shane Shalken, là, lui, il m'a appris comment retourner tôt. Puisque lui, c'était le maître dans l'organisation. Parce qu'il avait une technique complètement pourrie. Ah, mais c'était le joueur sur le circuit qui s'organisait le plus tôt. Et c'est quelque chose avec lui, j'ai beaucoup appris et qui m'a permis aussi, après, même sur dur et sur terre, de gagner 50 cm, 1 mètre. Et donc de pouvoir rentrer dans le terrain et donc de rentrer dans les 50 suite à ça. Et ça, quand je me blesse après en 2004,
3.
J'ai deux opérations, enfin oui, j'ai une opération de l'épaule. À ce moment-là, bah, juste après que je gagne Casablanca, en fait, à ce moment-là, ça tombe avec la période où je pense vraiment avoir compris le tennis, quoi.
Ouais.
Et mis en place tout mon jeu, puisque ça faisait quoi? Allez, 6 années que je jouais, 5 années que je jouais en tant que pro. Et là, c'était vraiment, j'avais une bonne maîtrise de mon jeu sur terre, en salle, alors pas encore sur gazon. Et j'ai beaucoup appris grâce à Shane Shalken de ce côté-là.
Et Herbati?
Lui, c'était pas compliqué parce que dès qu'il frappait une balle, il mettait un missile, lui. Donc, au service, en coup droit, en revers, Donc, voilà, s'il servait bien, on était imbriquable. Et puis, dans le jeu, quand il frappe fort, mais par contre, il fallait pas que la machine se déraye chez lui. Hein.
Ah
Parce
ouais.
qu'en face, il fallait mettre... Ah ouais, il fallait mettre un casque et puis les balles allaient dans le grillage. Hein.
Comment t'as fait pour te rapprocher de mecs comme Schalken et Rabati qui étaient presque top 10, quoi? C'est quand même des Formule 1, quoi.
Après, ce que je disais, hein, l'état d'esprit sur le circuit, c'est un cirque, le circuit.
Ouais.
Toute l'année, il y a deux tournois par semaine, à part les Masters 1000 et les Grands Chelems. Et les gens, ben, les joueurs, ils se baladent de ville en ville. Donc, ouais. On est 25 semaines, 30 semaines ensemble. J'ai joué en double avec Bouga, à Bercy. Après, c'est une famille. Et c'est ce que je dis, l'état d'esprit, l'ambiance, elle est quand même assez géniale. Parce que j'ai un très bon état d'esprit. Alors, des fois, bien sûr, il y a des mecs avec qui on ne s'entend pas. Il y a des connards, mais sinon, l'ambiance, elle est très, très bonne.
C'était qui le joueur avec lequel tu te marrais le plus?
Je m'entendais bien avec Safine, Rios, Dupuis, Mutis, Assion, Lodra, Zimonic. Et puis après, certains joueurs de double. J'ai aussi pas mal joué avec Max Mirny. Je m'entendais bien. Il nous appelait les Twin Towers. Donc, c'est pas de très bon goût maintenant. Mais en double, on a pas mal joué aussi ensemble.
Tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit? Parce que en côtoyant des mecs comme Marat et Rios, vous ne deviez pas que…
Non, j'étais assez raisonnable quand même. Je l'ai fait plus de temps en temps quand j'étais sur à des moments sur Challenger, quand j'étais un peu isolé ou que les circuits étaient trop longs. À un moment, tu faisais un premier tour, je m'en rappelle, dans certains pays comme à Brasov ou Bucarest ou autre, où à un moment, tu es là-bas, tu fais un premier tour, tu es obligé de rester. Et là, par contre, tu peux dégoupiller une ou deux fois, quoi. Ça m'est arrivé là, à ces moments-là. Mais sinon, non, j'étais assez raisonnable. J'avais une semaine par an ou quand on sortait de Bercy où je faisais n'importe quoi, mais c'était une semaine.
D'accord. Pendant ta carrière, tu as gagné 1 430 283 $. Et Christophe Rocus disait que tu avais été de bons conseils auprès de lui dès le début de sa carrière pour investir ses gains dans l'immobilier. Comment, toi, tu t'es sensibilisé à ces placements? Et à partir de quel moment de ta carrière, tu as commencé à voir un peu plus loin qu'uniquement tennis?
J'ai commencé avant, puisque je ne pensais pas jouer au tennis. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais déjà racheté dans un petit bled à côté de Metz, un petit appartement que j'avais complètement rénové, puisque c'était ma... Voilà, j'adorais bricoler, j'ai toujours adoré bricoler. Et puis ça, c'est aussi les personnes que j'ai rencontrées, notamment quand on part 30 semaines par an. J'avais un copain que j'ai connu au tennis club de Marly, qui est notaire, qui est Yvon Gérard. Quand tu pars 30 semaines, tu peux pas relever ton courrier, quoi. Et donc, tu es obligé d'avoir des personnes de confiance à la maison qui gèrent ça. Et donc, lui a fait partie aussi des gens qui très tôt... m'ont conseillé et m'ont orienté dans ce domaine-là.
Biff me disait qu'il avait un mentor qui devait être ce notaire, a priori, c'est ça?
Après, je ne sais pas.
Si, il m'a dit un des mentors de ma vie est un notaire du côté de Metz, donc j'imagine que c'est la même personne.
Voilà.
C'est énorme. Ton papa était dans les affaires déjà, c'est ça? Parce que tu dis sur ta fiche ATP que c'est la personne que tu admires le plus. À quel point est-ce qu'il t'a inspiré dans ta carrière, dans la suite de ta carrière?
Surtout déjà au niveau des passions, de m'écouter sur mes choix, de me donner la passion du bricolage, du travail manuel, de toutes ces choses-là. Après, il a arrêté très tôt l'école, mais après il a travaillé, il a été concepteur de dessinateur de cheminées, après il les a commercialisés, après il a monté sa structure, il vendait des piscines, spas, choses comme ça. Donc voilà, il était artisan, entrepreneur, mais c'était quelqu'un de toujours très très bon conseil, de posé, de discret et de dévoué.
Tu l'as dit juste avant, du coup tu t'es blessé assez gravement. Comment t'as pris la…
À l'épaule. L'épaule, je pense que ça venait des activités aussi des sports, hein. Du judo, handball. Et c'est pour ça que j'avais aussi un mouvement de service particulier. En fait, moi, je ne faisais pas une boucle. C'est qu'en fait, comme au hand, en fait, que c'était, le hand, en fait, on met son épaule en blocage. Et donc, on tourne. Et c'est le fait que ce soit bloqué et on projette l'épaule. Et mon service, en fait, C'était ça, c'était, je bloquais et je lançais l'épaule. Et donc, j'ai eu l'épaule complètement ruinée avec sous-scap, sous-épineux. Et donc, je me suis opéré de l'épaule en septembre 2001.
Le jour des attentats.
Ouais, et je me suis fait… non, pas 2001, 2003, pardon. Là, ça a été, j'ai eu 6 mois de gros travail de rééducation. J'ai pu reprendre. Et par contre, je pense forcer un peu trop au niveau préparation physique et autres pour reprendre le travail. Et je me suis pété le dos, en fait. Et puis là, à ce moment-là, j'avais 4 hernies discales. Et c'est là qu'en 2004, après Wimbledon, je décide d'arrêter.
Et ça a été un crève-cœur ou tu l'as vécu comment ?
Non, j'ai décidé comme en commençant de jouer au tennis, en une semaine, j'ai arrêté parce que je me suis dit qu'il y a d'autres choses à faire. Attends, je me range juste. Et après, on va devoir couper. Hein.
À toutes.
Je suis désolé. Hein, mais,
pas de souci, pas de souci.
On est là-bas. Ciao, ciao.
Allez, à toutes.
Merci, jeune légende, d'avoir écouté avec exigence, intensité et concentration cet épisode. Je reprends ces termes puisque c'était les 3 points développés par Sam Sumik dans notre première masterclass pour vous permettre de péter vos barrières sur le court. Viens nous dire ce que tu as pensé de cette première partie avec Julien Bouter. Mets-nous un like sur YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu n'as pas d'iPhone, tu peux le faire avec un ordi. Et mets-nous un commentaire sur ces 2 plateformes. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail, à avoir des invités de ouf, à te régaler la chic, à avoir des sponsors et à gagner des millions. Voilà, rien que ça, ça prend 8 secondes. Et tu peux changer ma vie ainsi que celle de Mia, mon petit chien. Si je ne t'ai pas assez attendri, je n'y comprends plus rien. Le bouche à oreille, tu commences à le savoir, marche aussi à merveille. Et tu nous files un énorme coup de main en envoyant cet épisode ou celui que tu préfères à un pote à toi, une amie, un joueur de club, une joueuse qui a un peu de temps dans les transports et qui ne connaît pas forcément encore les podcasts. Bref, le bouche à oreille, ça cartonne. Alors n'hésitez pas à partager. Merci pour tous vos retours hyper cool suite au hors-série prépa mentale avec Selim Asfar concernant le cas Naomi Osaka. Le sujet traité était « Assumer sa vulnérabilité ». Pour info, Selim a tourné une vidéo en anglais qui a été repostée par Marat Safin et Fab Santoro sur Insta. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez, cet épisode fait du bien et va vous faire relativiser un paquet de blocages mentaux qu'on se met tous, chacun, à son niveau. Merci également pour vos nombreux commentaires suite au débrief de la victoire de Daniil à l'US avec Fab Sbarro. Quelqu'un a d'ailleurs écrit « C'est de l'or en sbar ». J'ai adoré. Les retours sur les formations qu'on vous a contactées avec Fabrice sont super bons et ça fait chaud au cœur. Et si vous voulez un aperçu, vous pouvez commencer avec ces 4 secrets de statisticien. C'est en lien en description de l'épisode. C'est 1h15 de contenu offert pour que vous réalisiez enfin quel est votre ADN de joueur sur un court et pourquoi vous avez adopté ce style de jeu. Tu peux aussi nous soutenir d'une autre manière sur la plateforme Tipeee. Je suis full time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an et le but est de m'y investir encore davantage. Vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière. Chaque épisode, vous le savez, c'est un peu plus de 15 heures de boulot. On a maintenant les hors-séries en plus et les formations qu'on essaye de vous concocter aux petits oignons. Donc voilà, chacun vraiment à sa manière. C'est toujours hyper cool d'ajouter sa pierre à l'édifice. Un immense merci à Pistol Pete qui nous écrit « Il a l'air tellement cool, le bon Sam. Un bonheur d'avoir un échange si naturel sur un monde si exceptionnel. J'ai bien aimé ce commentaire. » Merci aussi à Rizami et à l'artisan du film, les pseudos Apple Podcast sont toujours originaux, si je puis dire. Et l'artisan du film nous dit « Félicitations pour ces podcasts, c'est de l'or en barre pour n'importe quel fan de sport, bravo !» J'en écoute pendant des longs trajets en train, des courts et longs trajets en voiture, les nombreuses heures à faire des espaces verts, et même parfois en bossant quand la tâche est trop répétitive. Les entraîneurs, les joueurs, les joueuses, les statisticiens, t'arrives si bien à les faire parler. Pas besoin de les mettre en accéléré, ils sont déjà bien trop courts. Bonne continuation pour la suite. Voilà, merci, ça fait tellement plaisir. Lâchez-vous, vous me régalez vraiment. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me suggérer des idées sur LinkedIn à Max Zamora, Zadamoera. C'est toujours très cool de se parler, même sur cette plateforme. On peut éventuellement s'appeler et échanger sur plusieurs sujets. Voilà. C'est tout pour cette semaine, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour le hors-série dédié au Moselle Open. On va voir si on arrive à trouver un créneau avec l'ami Julien Bouter. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.